utiliser la chose avec laquelle on ne va pas l'utiliser. Comme ça, parce que c'est le point de vue de Richard, ce n'est pas nécessairement le point de vue de tous les instructeurs en AP and Brain, ni celui c'est le point de vue de Charles, pas nécessairement celui des autres. Donc il y a des parties, parfois je dirais ça, on ne fait plus comme ça, ou, etc. Mais je ne me suis pas permis de modifier le bouquin, parce que c'est le bouquin de Charles, et donc voilà, ça c'est son bouquin à lui, c'est comme ça que lui enseigne ce cours, mais moi je ne l'ai reçu pas de Charles, je l'ai reçu de Richard directement, puis d'Alfred qui l'a retravaillé, approfondi aussi, et donc je me suis dit, ce serait chouette d'avoir un livre, un vrai livre en français, mais en même temps en sachant que Richard n'enseigne pas comme ça, qu'Alfred ne l'enseigne pas nécessairement, et donc je vais vous donner des petites modifs par rapport au bouquin. Parce que en fait, le bouquin qu'on avait reçu de Richard à l'époque où j'ai suivi le cours les premières fois avec lui, en fait, on n'avait rien comme théorie, on avait juste des points. Et moi, je suis sortie de ce cours en me disant, d'accord, j'avais traduit, donc je n'allais pas prendre la note. Je me suis dit, d'accord, c'est très très beau, mais je n'utiliserai jamais. Parce que ça me semblait du chinois pas possible, ce qu'on va faire en 4 jours, on l'avait fait en 2 jours, j'avais rien affiché, rien de rien, il n'y avait aucune structure. Donc voilà, mon premier cours d'AP and Brain. Bien. Alors ce cours-là est un cours de niveau moyen. Donc ça veut dire qu'on demande, pour que ce cours soit suivi, que les gens aient suivi un cours de type aigu avancé ou Advanced One Brain ou trait de personnalité négative, Core Energy 2, des choses de ce niveau-là. Donc, voilà un petit peu le niveau. Et c'est le tout premier cours sur le cerveau qui ait jamais existé. Tout ce qui est formatage, tout ce qui est utilisation de points d'acupuncture pour entrer à un endroit précis dans le cerveau vient de ce cours. C'est vraiment un cours qui a été construit par Richard. Je vérifie si c'est là mes enfants. Non, c'est pas mes enfants, donc ça va. On va se tenir en l'air le truc qui fasse son bruit. Et à partir de ce cours, plein d'autres choses, plein d'autres gens ont commencé à développer tout ce qui est formatage, les points d'accu, etc. Comme par exemple tout le programme libre de Charles, comme par exemple tous les cours sur le cerveau et autres de Hugo Tobar, etc. Donc, l'idée en fait, c'est que Richard va chercher un moyen de pouvoir aller travailler spécifiquement, principalement, bien que ça ne va pas être ce qu'on fait aujourd'hui, mais principalement au niveau du système limbique dans le cerveau. Donc on va dans ce cours-ci en grosse partie travailler sur le système limbique, en petite partie, et ça va être la journée d'aujourd'hui, plus sur le cortex, et on ne va pas du tout aborder le tronc cérébral. Je dis ça pour ceux qui ont déjà des cours sur le cerveau. Donc voilà un petit peu l'idée. Et ce cours, au départ, était vraiment prévu pour tout le monde. On ne devait pas avoir fait la physiologie appliquée, l'hologramme, etc., pour suivre ce cours. On pouvait, c'était vraiment un cours, on avait 100 heures de kinésio, quelque chose comme ça, pouf, on pouvait suivre ce cours. Donc ça, c'était l'idée de base. Et je vais regarder, je me suis réalisé un petit bouquin avec mes notes, pour vous donner les dates, parce que je n'ai pas toutes les dates en tête. Je vais d'abord vous raconter l'histoire de Richard, pour ceux qui ne le connaissent pas. En 1978, il a 28 ans, et il est renvoyé à la maison pour mourir. Il souffre d'un œdème cérébral, ça s'appelle la maladie de Bessel, le syndrome de Bessel, et on lui dit, vous avez encore une semaine à vivre, retournez chez vous, de toute façon, nous, on ne peut plus rien pour vous, et vous prenez un lit à l'hôpital, rentrez chez vous. Richard n'est pas le genre de bonhomme à se laisser faire, ça l'a mis dans une colère noire, et c'est cette colère contre le médecin, c'est cette colère noire qui l'a permis de vivre, quelque part. Parce que dans les jours qui ont suivi, un de ses voisins est arrivé en lui donnant l'adresse de quelqu'un qui faisait des miracles, cette échelle d'Undil, un des 12 salopards du début en kinésiologie appliquée, avec John T. Goodhart, etc. Et pendant 6 mois au moins, il a, en janvier 79, il a commencé à travailler avec Sheldon Deal. Et pendant 6 mois, il a fait des séances avec Sheldon Deal, et il a médité, et il a fait un régime très strict, et il s'en est sorti. Et pendant ces 6 mois, 3 fois par semaine, il était chez Sheldon, et au début, on faisait à peu près que des figures 8 sur Richard. Des figures 8 après figures 8 pour l'aider à se recentrer, etc. Puis à un moment donné, où il a commencé à aller mieux, il a fait sa formation d'instructeur en touch, et puis avec Gordon Stokes, et puis il a été invité par Sheldon à travailler dans le cabinet de Sheldon, qui est chiro, naturopathe, mais donc à travailler en collaboration, et donc il faisait des touches à certains des patients de Sheldon, et Sheldon voyait la suite, etc. Et donc il a travaillé comme ça, longtemps avec Sheldon, et puis à un moment donné, il a eu envie d'aller plus loin au niveau kinésio, et parce qu'il a, à force de travailler, il avait fait des découvertes, et il a proposé à l'école de l'ICAC, qui est le Collège international de kinésiologie appliquée, de leur présenter le fruit de ses recherches et de ses découvertes. Et l'ICAC a dit non, vous n'êtes pas chiro, l'ICAC c'est des chiro, les autres c'est Boyd, dehors. Ok. Et du coup, il a créé la physiologie appliquée au lieu de la kinésiologie appliquée. Donc c'est applied physiology et pas applied kinésiologie. Et à partir de là, il a commencé à développer de plus en plus de choses. Et à l'époque où moi j'ai commencé l'AP, c'était aux alentours de la naissance de Pat, peut-être un peu avant, donc vers 88-89, oui, quelque chose comme ça. En AP, on ne parlait pas encore de l'hologramme, de hors-hologramme, hologramme. On ne parlait pas encore vraiment des 7 éléments. À l'époque, c'était les 5 plus 1. On parlait de 6 éléments. Donc, il était encore vraiment dans tout le début de ses recherches. Et puis, en tout début 90, Richard est venu pour la première fois avec des diapasons. Ça n'existait pas avant. Et avec un truc bizarre sur le cerveau. Et la première personne en Europe qui a reçu une séance bizarre sur le cerveau, c'est Alfred Schatz. Et Richard travaille, il fait sa séance qui dure 40 minutes avec des machins, et puis des diapasons, enfin une séance extrêmement bizarre pour l'époque. Et il travaille sur un endroit, il dit ça, ce sont les corps mammilaires. Ok, on verra ces trucs-là. Et puis, la séance se termine, Alfred se lève de la table, et Alfred décrit ça en disant, je me lève et j'ai une envie d'y aller, quoi, mais je sens qu'il faut que j'y aille, quoi. Et il fait ce bruit avec sa bouche, là. Et puis alors Richard me dit, mais tu sais ce que c'est les corps mammilaires? Le corps mammilaire, c'est ce qui est lié à l'appétit et à la salivation. Alors, il est tombé des nues, Alfred, et il s'est dit, ça, c'est quelque chose, ce truc. Parce qu'il travaille avec des machins, et puis il m'équilibre, et puis après, mais ce qu'il a équilibré est directement, immédiatement actif dans mon comportement. Donc, voilà. Alors, ça a vraiment donné une expansion, parce que c'est clair que nous, ici en Europe, si tous ces mecs qui viennent de très loin et qui se font payer très cher pour tous les cours, il n'y avait pas des écoles pour les accueillir et pour être enthousiastes pour le programme, ben, ils resteraient des illustres inconnus dans leur petit coin. Hein? Ça, c'est clair. Et donc, voilà comment Richard a vraiment pris une expansion, l'AP a pris une expansion en Europe. C'est entre autres à cause de ce cours et à cause de cette fameuse séance avec Alfred. Voilà. Alors, c'était aussi le premier cours, quelque part, qui servait de cours de setup. Alors, setup, tu connais ce mot? Non, pas vraiment. Setup, en AP, c'est vraiment comment on construit un circuit qu'on va mettre en pose log, en mise en circuit, pour préciser un cadre et pour dire c'est ça qu'on va équilibrer. Et donc le setup, c'est la mise en circuit de beaucoup de choses. Et comme le monde va de plus en plus vite, aujourd'hui, avant, on écrivait une lettre, on attendait un mois pour avoir la réponse à sa lettre, et si le correspondant ne répondait pas tout de suite, on pouvait dire « Ah, c'est la poste, la lettre est arrivée plus tard, etc. etc. » Aujourd'hui, on reçoit un email, si une demi-heure après, on n'a pas répondu, on reçoit un email de rappel, etc. Bien. Ça, c'est la vitesse du courrier. Mais pour pouvoir répondre aussi vite, notre cerveau doit fonctionner aussi vite aussi. Et c'est une des raisons pour laquelle les années 90 ont été cette expansion au niveau rapidité de communication a fait que le cerveau aussi a dû communiquer plus rapidement. Et je me souviens, c'était en cours avec Alfred, cette histoire-là, j'étais chez lui et Alfred avait dit à Gordon Stokes, écoute, regarde, ça c'est mon fax, c'était dans le début des années 90, c'est génial cet appareil, c'est vraiment génial, tu vois, t'envoies un truc et tu le reçois de l'autre côté. Et Gordon avait dit, mais attends Alfred, qu'est-ce que tu veux? Moi je veux bien acheter un fax, mais c'est pour communiquer avec qui? Juste avec toi, ça sert à rien quoi. Voilà, parce que... Et Alfred m'avait dit, mais tu vas voir, c'est le truc du futur, achète-toi un fax et tout et tout. Et donc Gordon s'achète un fax, et je me souviens encore de Gordon racontant, Alfred envoie son fax, et Gordon aux États-Unis regarde ce papier qui sort avec une écriture. C'était phénoménal, quoi. Ils se sont téléphonés tellement c'était extraordinaire. Bon, et c'est vrai que Gordon l'a pas regretté, parce que en 6 mois, le fax était utilisé par tout le monde, etc. Donc ça a vraiment été le aussi bien au niveau moyen de communication rapide que au niveau de ce qu'on nous demandait dans le cerveau. Moi, je me souviens, dans les années 90, pour acheter une nouvelle voiture, on faisait 3 mois. Moi, ma voiture, elle est morte jeudi, mais j'ai déjà commandé la nouvelle, je suis obligée. On est dans le rapide. On est obligé de courir de tout. Ça doit aller vite. Mais vous imaginez la pression sur le cerveau. Les choses doivent aller vite, ça doit aller vite. Tout de suite, là. Bon. Mais notre cerveau, il est le même qu'il y a 10, 15, 20 ans. Et donc, si on a le même cerveau, la seule chose qu'on puisse faire, c'est le rendre efficace de manière le plus optimale. Et qu'est-ce qui nous nuit au niveau du cerveau? D'abord, c'est le stress. Et le stress, il nous touche où? D'abord, il nous touche d'abord au niveau du non-conscient, au niveau du système limbique qui est notre cerveau émotionnel. Et voilà pourquoi Richard s'est décidé à travailler principalement au niveau émotionnel. Bien. Alors, le programme du cours... Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on va aller le soir. 5h, 6h, on n'est pas un énorme groupe, mais ça va dépendre du temps. Donc ça peut être 5-6h.
Moi aujourd'hui, je vais partir à
3h30. C'est dommage, mais je vais continuer. Ah, parce qu'il y a de la matière, donc voilà. La seule chose, c'est que moi, vendredi, mercredi, le cours s'arrêtera au plus tard à 5h. Ça va? Mais les autres jours, on va avancer en fonction de ce qu'on peut. Aujourd'hui, ça va être un jour plus mécanique. Parce que la première journée, ça va vous paraître un peu complexe, parce qu'on va rentrer dans les formats, dans ceci, dans cela. On va apprendre la procédure, mais la procédure va être toujours la même. Donc, il n'y a pas à paniquer. Demain, ça va être la même chose. Après-demain aussi. Et ce sur quoi on va se centrer, contrairement à ce que je viens de vous dire, mais c'est tout le cortex cérébral. Ça va? Demain, on rentre dans le cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Et donc, on va sélectionner différentes parties du cerveau limbique qu'on va développer. Demain matin, ce sont les ganglions de la base. Et les ganglions de la base, je vous dis déjà l'info, on peut dire ganglion de la base égale moteur. Or, comme aujourd'hui, on va voir tout le cortex, dont le cortex moteur, vous verrez que tout le cortex est associé à la motricité, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et donc, on va voir cortex moteur et demain matin, le ganglion de la base. Donc, ça veut dire que pendant un jour et demi, on va être associé au mouvement. Ça va? Demain après-midi, on va voir l'hypothalamus, que certains mettent dans le cerveau limbique, d'autres pas. Mais l'hypothalamus qui contrôle, qui est comme une petite entrée vers le tronc cérébral et vers les fonctions physiologiques, comment je respire, comment mon cœur bat, etc., etc. Après-demain, on va voir la mémoire avec l'hippocampe et l'amygdale avec le stress, les réactions de survie, bien d'autres choses encore. Et le quatrième jour, on va faire le reste du cerveau limbique ainsi qu'un rassemblement de tout. La manière dont je vais gérer les choses à chaque fois, c'est on va voir de la théorie, je vais vous donner des petites histoires, faire une démo et puis pratique. Ça va? Donc voilà un petit peu. J'ai dit voir page 55. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Je ne sais pas si c'est la note page 55. Oui.
C'est une procédure, un cours, enfin, qu'on utilise. Il a un but particulier, il s'applique à quelque chose en particulier, c'est l'apprentissage.
C'est vraiment un cours de CEDE. Okay. Donc ça veut dire, par exemple, je vous le donnerai, l'amygdale. Juste l'amygdale émotionnelle. On peut la mettre à tout moment dans le circuit. On peut aller la vérifier à tout moment dans le circuit.
Partout.
Mais maintenant, je peux aussi décider par rapport à un thème donné, d'aller voir dans le cortex, d'aller voir dans le système limbique s'il y a du stress. Et s'il y a du stress, là, je peux partir et faire tout un petit voyage dans le cerveau. Ça va? Mais je peux aussi décider de ne pas aller voir dans le cerveau. Donc ça va être une décision perso. Mais on va voir pourquoi.
Et ce qu'on va voir de l'amygdale, c'est différent de ce qu'on a vu en lui?
Non, c'est la même chose. Enfin, au niveau de l'amygdale émotionnelle, c'est la même chose. Mais au lieu de voir 5 points amygdaliens, on va voir 24. Parce que l'amygdale ne touche pas que aux émotions. Ça va?
Ok.
Non. Ça, cette partie-là sera la même chose. Bien. Alors. Le bouquin que j'ai ici, c'est vraiment mes notes de cours que j'ai retapées, donc ne vous dites pas « Oh, elle a un autre livre que moi !» Bien. Alfred, il aime bien une phrase qu'il a créée. « Là où l'estomac digère la nourriture, les aliments, dit-il, le cerveau digère les informations et les expériences. » Et on sait bien que si l'estomac fonctionne bien, je digère bien. Et une fois que j'ai digéré, après, digérer c'est quoi? Transformer les aliments pour pouvoir les utiliser. Les utiliser, c'est les assimiler. Pour le cerveau, c'est la même chose. Je reçois plein d'infos, je fais plein d'expériences, mais ces infos, ces expériences qui m'arrivent, est-ce que je peux les digérer? Est-ce que je peux les transformer pour les assimiler? Et tirer le bénéfice de ce que j'ai appris, de ce qui m'est arrivé. Ça va? Ça, c'est le but du cerveau, c'est digérer ce qui m'arrive et pouvoir l'assimiler, comme l'estomac le fait avec la nourriture. On sait très bien que si je mange trop, si je suis surchargée, si je suis perturbée, ma digestion se fera mal, les aliments resteront plus longtemps dans mon estomac, ça va fermenter, il y aura des réactions en chaîne, et pendant plusieurs jours, je ne vais pas être en forme. Le cerveau, c'est pareil. Si je digère mal une expérience, elle va rester là, tout le temps. Soit vraiment présente, soit dans le fond. On sait bien, hein, les récessions d'âge, c'est ça. Ça reste coincé là-bas. Et ça va affecter tout le reste de ma capacité à digérer de nouvelles infos, de nouvelles expériences. Par contre, si je digère bien ce qui m'arrive au niveau information, ça va couler de source, je vais apprendre correctement. Donc, pour revenir à ta question, Juliette, ça peut toucher l'apprentissage. Et par exemple, c'est un cours qui colle super bien à Éduque en profondeur, les 7D. Parce que les 7D sont orientés à apprentissage dans le sens large du terme, eh bien, je peux rajouter ça. Mais ça colle aussi bien à trait de personnalité qu'à d'autres cours de ce niveau-là. Alors, en kinésio, notre rôle, souvent, c'est de faire beaucoup de choses pour aider à digérer des vieux machins, des vieilles expériences. Quand j'ai eu 3 ans, blablabla, quand j'ai eu 6 ans, blablabla, et j'en souffre encore aujourd'hui, on enlève ça. Et en fait, en faisant ça, si je travaille en récession d'âge, par exemple, sur un événement qui m'est arrivé avec les émotions, etc., etc., ça peut à un moment donné changer quelque chose dans le cerveau. Hein? Et quand je fais ça, comme vous le faites d'habitude, ça s'appelle faire en anglais, c'est outside in. Je travaille à l'extérieur sur les symptômes, les signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je change ça. Et ça, ça va changer quelque chose in dans le cerveau. Ça va? Ça s'appelle du outside in. Mais certaines fonctions cérébrales, mais complètement non conscientes, peuvent perturber ma manière de réagir, ma manière d'agir, mes activités conscientes, volontaires. On a toujours là derrière des trucs dont on n'est même pas conscient et qui nous perturbent. Et ces trucs non conscients, tant que je ne vais pas là-bas, ben, je ne peux pas. Je peux très bien, par la cognition, par la réflexion, par l'analyse mentale, me dire, mais voilà, j'ai vécu ça, je travaille sur ça, le test musculaire peut me permettre d'aller en récession d'âge, trouver telle émotion et tel événement probable, blabla, etc. Je ne suis toujours pas dans le cerveau, là. Et je ne touche toujours pas à ces zones du cerveau tout à fait non conscientes, système limbique, qui font que je réagis comme je réagis. Ça va? Et donc, c'est pour ça que Richard a cherché vraiment de pouvoir trouver ces fonctions cérébrales plus profondes qui ne sont pas directement accessibles, mais qui perturbent les fonctions cérébrales conscientes superficielles, corticales. Eh bien, il a dû chercher un moyen d'aller au niveau de ses fonctions plus profondes, plus cachées. Et c'est une manière d'entrer directement dans le cerveau pour optimaliser ces fonctions-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inside out. C'est-à-dire que je vais dans le cerveau et de là, je vais travailler dans le cerveau et de là, ça va avoir un impact sur l'extérieur, sur le conscient, etc., etc. Ça va? Ça, c'est la manière de faire.
Donc, est-ce que c'est la même chose que l'inconscient?
Mais toi, tu parles plus au niveau psychologique, conscient, superconscient, subconscient, inconscient. Ça, c'est plus au niveau psychologique. Ici, on parle plus au niveau physiologique, neurologique, anatomique. Ça va? Donc, le truc, c'est, tu prends une chaise et tu te rajoutes, il y avait 9 chaises, mais il y en a une qui a été enlevée. Donc, le truc, c'est, toutes les fonctions, si tu veux, oui, le subconscient ou l'inconscient nous conditionne. Eh bien, au niveau anatomique, c'est la même chose. Tout ce cerveau non conscient, limbique, tout ce cerveau limbique, nous conditionne. Et font qu'on est handicapé et qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi. Et donc, pouvoir aller dans le cerveau directement, plutôt que de travailler sur les symptômes, sur ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, c'est aussi, d'une certaine manière, aller dans le subconscient, l'inconscient.
Donc, on pourrait dire que quelqu'un qui a fait beaucoup de thérapie, y compris de l'hypnose et tout ça, et qui a travaillé sur son inconscient, qui a toujours des problèmes, a peut-être un problème au niveau des fonctions dans le cerveau, ses fonctions profondes.
Mais, tu vois, tu peux travailler sur ton inconscient, thérapie, en psychanalyse, etc. Mais là, tu travailles sur ta vision de l'histoire. Oui. Tu travailles sur la psychologie du truc. Oui. Mais si au niveau de l'anatomie, de la physiologie, il y a quelque chose qui, où il y a du stress, oui. D'abord, travailler sur le stress, oui. Il sera toujours là. Oui. Tu vois? Oui, donc, ici, c'est on travaille sur le stress. Okay. Bon, il y a d'autres méthodes. Hein, il n'y a pas que celle-là. Oui. Je suis d'accord, mais voilà.
Non, c'est chouette. Je voulais voir bien la différence entre les deux.
Alors, quand on regarde le fonctionnement du cerveau, pour qu'un cerveau fonctionne correctement, qu'est-ce qu'il faut. Et ça, c'est, ça, ça vient du programme Libre, c'est Charles qui a mis ça en mots, mais bon, on dit ça partout. Mais d'abord, je dois pouvoir avoir accès à la fonction ou aux fonctions spécifiques qui vont digérer tel ou tel type d'information. Ça, c'est la première chose. Il faut que je puisse aller à cette fonction-là. Si c'est la mémoire, que je puisse aller à la mémoire. D'accord ? La fonction mémoire doit pouvoir fonctionner. La fonction mouvement doit pouvoir fonctionner, etc. Par exemple. Première chose. Deuxième chose, très souvent dans le cerveau, c'est pas une seule fonction qui fonctionne toute seule, là, comme une grande. Non, elle fonctionne toujours en accord avec d'autres fonctions. Donc, il faut que toutes ces fonctions nécessaires pour réaliser une tâche puissent fonctionner ensemble, puissent être intégrées. Et c'est ce qu'on appelle l'intégration cérébrale. C'est de pouvoir utiliser plusieurs fonctions en même temps ou dans un timing correct. Parce que souvent, dans le cerveau, le timing joue un grand rôle. Donc, ça veut dire que l'information va être traitée à tel endroit, et puis après à tel endroit, et puis après à tel endroit. Et il faut que ça se fasse dans un timing correct. Comme par exemple, quand je dois aller d'ici à Kirchstarten chez Alfred en Allemagne, je dois prendre un train de Genval à Ottigny, de Ottigny à Namur, de Namur à Bâle, de Bâle à Freiburg, de Freiburg à Kirchstarten, par exemple. Eh bien, pour faire tout ce trajet-là, si un train a du retard, tout le trajet est perturbé. C'est la même chose dans le cerveau. Si un train a du retard, si une fonction est stressée, l'information va arriver là, elle va arriver en retard là, et tout le reste va être perturbé. Ça va ? Donc le timing est important. Donc j'ai besoin de pouvoir avoir accès à la fonction, de pouvoir utiliser mes fonctions ensemble de manière intégrée dans un timing correct. Et troisième chose, j'ai besoin de garder cette intégration cérébrale face à un stress, face à un défi. Si je reste dans une bonne intégration cérébrale quand je suis cool dans mon fauteuil en train de faire ma méditation, c'est très bien, mais je ne sais pas si ça me sert dans la vie. Je dois aussi être intégrée quand, par exemple, je dois en 2 jours me trouver une nouvelle voiture parce que voilà, ça va. Ou quand en 2 jours je dois ceci, je dois cela, ou en 10 minutes je dois faire face à quelqu'un qui est en colère face à moi, sans partir dans la, etc. Ça va ? Donc c'est vraiment important de pouvoir garder l'intégration cérébrale sous stress. Et c'est donc la raison pour laquelle, quand on va faire des séances ici, on ne va pas juste aller équilibrer l'amygdale pouf plaf comme ça ici et maintenant. Non, on va mettre un cadre. On va dire, voilà, c'est dans telle situation que mon cerveau ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dans telle situation que mon cerveau n'est pas tout à fait capable de traiter les informations. Donc on va mettre le cadre. Première chose. Puis, deuxième chose, une fois que j'ai mis le cadre, je vais aller voir, mais qu'est-ce qui ne va pas dans le cerveau ? Quelles sont les fonctions cérébrales qui ne vont pas ? Alors, ce cours s'appelle Anatomie et physiologie du cerveau. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler plus au niveau fonctionnel qu'au niveau anatomique. Mais on va voir qu'on peut faire les deux. Ok. Une fois que j'ai trouvé les fonctions, je vais voir qu'est-ce qui ne va pas dans cette fonction, l'équilibrer. Mais cette fonction-là, une fois que j'ai pu mettre en état, voir ce qui n'allait pas rentrer dans le circuit, le stress de cette fonction, après, mais peut-être que cette fonction-là ne fonctionne pas parce qu'il y en a une autre derrière qui ne fonctionne pas. Et donc, je dois aller voir que cette fonction fonctionne en accord avec d'autres fonctions. Ça va ? Et ça va être l'étape suivante. On ne va pas faire ça aujourd'hui. On ne va pas aller jusque-là aujourd'hui. On va doucement y arriver. Ça va ? Donc, on doit pouvoir orchestrer cette première fonction dans ce thème qu'on a mis en circuit avec d'autres fonctions. Ça va ? Une fois que j'ai fait ça, que le cerveau me dit, ok, par rapport à ce que tu as mis en circuit au départ, tout semble aller bien. Par exemple, par rapport à lire un livre de première primaire, le cerveau, maintenant, il fonctionne correctement. Alors, je vais devoir le mettre au défi un peu plus difficile, parce que c'est bien de maintenant être intégré dans un truc. Oui, mais je dois pouvoir rester intégré face à un défi un peu plus grand. Et donc, on va demander, par exemple, est-ce que quand tu lis un livre de deuxième primaire, tu restes intégré, ou est-ce que là, pouf, tu perds tes capacités? Et donc, on va remettre au défi le cerveau pour arriver à aller un peu plus loin. Ça va? Par exemple, tout à l'heure, je vais vous faire jongler. On va s'amuser. Je vais vous faire jongler. Et vous allez jongler. Non, c'est surtout demain avec les ganglions à la base. Mais peut-être aujourd'hui un peu. Vous allez jongler et vous n'allez pas y arriver. On va faire un circuit. Puis vous allez rejongler et vous allez voir que ce sera plus facile. Et puis je dis, ok, maintenant tu jongles avec des balles au lieu des foulards. Les foulards, ça reste en l'air plus longtemps que les balles qui retombent tout de suite. Donc, on met un pas plus loin. Par exemple, je ne dis pas que vous allez voir jongler, mais c'est un exemple. Ça va? Etc, etc. Donc, on peut chaque fois aller un pas plus loin. Ok. Bien. Tant qu'on y est, j'ai envie de vous donner... Il y a deux choses que je trouve extraordinaires à voir pour le cerveau. La première chose, c'est un livre, ça c'est de l'argent. Et ce livre, pour ceux qui sont passionnés par le cerveau et par scanner le cerveau, il est génial. C'est l'Atlas de neurosciences humaines de Netter, chez Masson. Et donc, je vais le laisser et vous pourrez le regarder. Ça va? Il y a tout dans le cerveau s'y trouve, que ce soit depuis les neurones, jusqu'au crâne, jusqu'au cerveau dans son ensemble, et puis les différentes parties du cerveau, des coupes, etc., etc.
Toutes les difficultés, vous dire.
Mais ce qui est génial, c'est qu'au niveau scan, des choses fabuleuses, au niveau texte, t'as pas grand-chose.
Ah oui.
Mais oui, c'est génial, quoi. T'as juste ce qu'il faut.
Ouais, c'est génial.
Maintenant, si t'as besoin d'aller plus loin, tu achètes un bouquin de psychobiologie, par exemple, où tu vas vraiment loin dans le cerveau et tout. Mais pour scanner et pour avoir... Tu sais, bon, c'est chouette de pouvoir montrer à la personne des nations. Oui. Celui-là, il est extraordinaire. Ça va? Donc, voilà. L'autre chose, à quoi que je l'oublie, où ai-je mis ça? Le cerveau, en un mot, point. Je vous dis, hein. Le cerveau, point. McGill, M-C-G-I-2-L. C-G-I-2-L. Point C-A. Slash flash. Le cerveau, point. McGill, point C-A. Slash flash.
C'est quoi flash?
C'est une... Flash, F-L-A-S-H.
Ah, oui,
voilà. Ou alors, vous tapez le nom du site, c'est Le cerveau à tous les niveaux. C'est un site fabuleux, fait par une université au Canada. Donc, il est en français, mais je crois qu'il existe aussi en anglais, si tu préfères, Tomoe. Site fabuleux, où vous avez trois niveaux de difficulté. Vous avez le niveau de difficulté débutant, moyen, avancé. Et donc, pour chaque thème, vous pouvez aller voir le niveau de difficulté. Ça, c'est une chose. L'autre chose, vous pouvez voir le cerveau du point de vue anatomique, du point de vue physiologique, du point de vue social, du point de vue blabla, du point de vue truc-truc et machin-machin. Donc, vraiment, c'est le site, à la limite, on ne pourrait plus utiliser que ça, ici à l'UBK, ce site, et on jongle dedans. Actuellement, je n'ai pas les instruments pour, mais c'est assez extraordinaire. Et vous pouvez tout imprimer, c'est libre, c'est gratuit, c'est génial. Donc, pour ceux qui ont envie de creuser le cerveau, etc., par rapport à tout ce que moi je vous dis, qui ont envie d'avoir des schémas, des tableaux, etc., c'est vraiment un site fabuleux. Ça va? Voilà, ça c'est les infos que je voulais vous donner avant de partir dans mon cours.
Et
Dominique,
celui-là, psychobiologie, c'est quoi?
Psychobiologie, c'est, de toute façon, il va rester dans la pièce aussi, parce que je vais l'utiliser plusieurs fois pour vous montrer certaines choses. Ça va? Donc pour moi, ce sont des bons livres. Il y en a probablement d'autres. Mais le Netter, depuis que je suis là, moi, quoi. De même qu'il y en a un pour le corps humain. Mais ça, ceux qui sont intéressés, qui est aussi plein à scanner, qui est génial aussi à scanner.
Voilà. Parce que moi, je le réécris au site. Et pour demander si ça n'est pas sur d'autres sujets.
Ben, non. Il est fabuleux, ce site. Toi, tu as aussi été dedans.
Oui, j'ai fait le schéma.
Et gratuit, et c'est vraiment un travail extraordinaire qu'ils ont fait. Bien. Dans le cerveau, on a trois types, entre guillemets, de tissus différents. Façon de parler, mais. On a ce qu'on appelle la matière grise. Et la matière grise, c'est dans le cortex et dans les noyaux sous-corticaux. Et pourquoi ? Non, je reviendrai à ça après. Puis, on a la matière blanche. Et la matière blanche, c'est la masse la plus importante du cerveau. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la matière liquide. La matière liquide, ben, c'est le liquide céphalo-rachidien qui nourrit le cerveau, qui le protège, etc. Et je voudrais vous montrer une... J'ai plus l'habitude des planches de lit parce que je les ai plus souvent utilisées, donc je les trouverai plus facilement ici. Oui, je t'écoute.
Mais tout d'un coup, les cellules gliales, alors c'est dans la matière, non ?
Les cellules gliales, ça peut être la matière blanche et la matière grise. C'est plutôt la matière blanche. Voilà, ici par exemple. Ça, je vais pouvoir vous montrer ceci. Donc, vous avez ici c'est une coupe du cerveau au niveau de l'épiphyse, une coupe qui est faite comme ceci. Et vous voyez que vous avez la matière grise, qui est ce qu'on appelle le cortex. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les noyaux sous-corticaux. Les noyaux sous-corticaux, mais c'est aussi de la matière grise, mais en dessous du cortex. Vous avez là le thalamus, les noyaux gris centraux, les ganglions de la base. Vous avez ici, sous le thalamus, l'hypothalamus. Vous avez l'amygdale là, etc. On va voir toutes ces personnes.
Tout ça, c'est de la matière grise.
Ça, ben, on le voit, c'est la matière grise. Tout le reste... c'est la matière blanche, sauf ici, vous avez ceci, qui est en fait ce qu'on appelle le troisième ventricule qui est rempli de liquide céphalo-rachidien, et ici, la fente du quatrième ventricule qui est aussi rempli de liquide céphalo-rachidien. Ça paraît gris aussi, mais ça, c'est ce qu'on appelle les ventricules, on va y arriver. Ça va ? Et vous voyez qu'une grosse partie de la matière blanche, c'est par exemple le corps calleux. Bien. Alors on va voir la différence entre les deux. La matière grise, elle est grise pourquoi ? Parce qu'elle est constituée des noyaux des neurones, des corps cellulaires des neurones. Et les corps cellulaires sont très serrés les uns contre les autres. En fait, même sur un cerveau mort, la matière grise, elle est grise. Ça paraît plus noir. Et en fait, les corps cellulaires des neurones sont plus foncés parce qu'il y a ce noyau, il y a toutes les mitochondries, il y a plein de structures qui produisent des protéines, qui produisent des neurotransmetteurs, etc. Et donc, c'est ça qui fait que ça paraît coloré. Alors que la matière blanche, en fait, la matière blanche est principalement constituée d'axones. Est-ce que vous avez tous vu un petit peu d'anatomie, ou vous savez ce que c'est un axone ou pas ? Non, pas vraiment. Ok.
J'ai su, mais je me rappelle pas.
Ici, sont marrants parce qu'au lieu de te mettre sur la fiche Inès, bon. Mais par exemple, on a le corps du neurone. Voilà, par exemple, ça c'est un type de neurone qu'on peut rencontrer avec ici son noyau. Donc ça c'est le corps cellulaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle les dendrites. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'axone. Donc, c'est comme...
Donc, qui n'est pas le bien de l'être?
Je vais mettre un petit peu d'ordre parce que c'est un peu dramatique. Ça, quand je fais le cerveau, j'ai toujours la truc autour de moi. Là, j'ai un... Je crois que j'avais vu un... Voilà. Par exemple, t'en as un ici. Pour te montrer un plus vrai, quoi. Ça va ? plus beau. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent énormément de dendrites et il y a un seul axone. Ça va ? Les dendrites sont généralement courtes dans le cerveau et les axones peuvent être extrêmement longs, comme par exemple du cerveau jusqu'au petit orteil. Et en fait, certaines personnes, malheureusement je n'ai pas le droit d'avoir ces dessins, montrent que les dendrites sont comme, je ne suis pas très dessinatrice, comme des grandes oreilles. Voilà. Et que les axones sont comme des grandes bouches. Non. Je ne suis pas très dessinatrice. Donc les informations arrivent par les dendrites, sont amenées au noyau de la cellule et repartent et sont crachées dans une fente synaptique vers une nouvelle oreille, un nouveau dendrite. Et donc, les informations passent tant au niveau électrique dans une cellule, dans un neurone, qu'au niveau chimique, à travers la fente synaptique, parce qu'il y a libération de neurotransmetteurs qui vont être repris ici et qui vont de nouveau dépolariser la cellule nerveuse suivante et réenvoyer une onde électrique.
Et les synapses se mettent où là-dedans?
Où? Ben là, par exemple, il y en a une et ça passe au nerf.
Ah, c'est ça.
T'en as plein. Si tu regardes de nouveau sur le schéma ici, tu vois, ça, ce sont différents types de synapses. Il y a plein de sortes de synapses. Mais par exemple, ici, tu vois, tu peux avoir une synapse là, etc. T'en as plein. Hein? Okay. Moi, je simplifie. Là. Les autres, vous connaissez ça, hein?
Je crois.
Bon. Ok. Bien.
Merci.
Alors, la matière blanche, donc je vous dis que la matière blanche remplit tout le reste, et la matière blanche, si elle est blanche, c'est parce que les axones sont entourés de gaines de myéline, et la myéline, c'est de la graisse, une graisse isolante des axones, qui joue un rôle essentiel dans la vitesse de communication. Le fait que les axones soient protégés par une gaine de myéline fait que la communication augmente de 15%. Sans myéline, nos axones, pour avoir la même vitesse, devraient être beaucoup plus gros. Et s'ils étaient plus gros, notre tête aurait la taille de quoi? D'un piano. Donc, on n'a pas de tête comme un piano grâce à la myéline.
Et on peut avoir des carences en myéline.
On peut avoir des pathologies en myéline. Alors, la myéline étant une graisse, c'est clair que le fait de consommer, on dit toujours prends des oméga-3, prends ceci, prends cela, C'est pour nous, on dit ça nourrit ton cerveau. Ben oui, ça nourrit le cerveau. Mais il y a des pathologies de la myéline, comme la plus connue, c'est la sclérose en plaques. Hein? La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune où il y a comme une inflammation de la graine de myéline. Il y a une autre maladie aussi qui est la sclérose latérale amyotrophique. Et vous connaissez cet astrophysicien qui est dans sa petite charrette, Stephen Hawking. Vous voyez, eh bien, lui, il souffre de cette maladie-là, et c'est en fait absence, diminution de la conduction nerveuse, parce que la myéline est détruite, est enflammée, est lésée, le mouvement volontaire est diminué, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile, et toute la coordination musculaire aussi. Rien que, donc les neurones sont touchés parce que l'organe protectrice n'est plus là. Ça va ? On voit aussi de plus en plus, mais bon, à l'époque de ce cours, ça n'existait pas encore, mais que justement toutes les cellules gliales dont tu parlais tout à l'heure, qui sont les cellules qui remplissent les trous entre les neurones dans le cerveau et qui sont présentes en beaucoup plus grosse quantité que les neurones, alors qu'on en a déjà beaucoup des neurones, eh bien que les cellules gliales, ce sont elles qui fabriquent la myéline. On va le voir tout à l'heure, entre autres. Alors les axones constitue 99% de la masse des neurones. Donc, les axones, ici, bon, ça paraît pas autant, mais j'ai plein de dendrites qui sont très courts, j'ai un seul axone qui sont très longs, et c'est 99% de la masse. Souvent, ils sont courts, mais ils peuvent aller extrêmement long, vraiment, extrêmement loin.
Quand tu dis court, excuse-moi, c'est par exemple avant-arrière, pour les...
Par exemple, j'ai des axones qui passent de l'aire motrice à l'aire prémotrice. Il faut bien que ça passe, là. Hein? Donc, ils peuvent être très courts. Mais quand je disais jusqu'au petit orteil tout à l'heure, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, ça part du cortex et ça arrive ici en bas. Là, il y a une synapse et de là, ça va. Mais bon, c'est un axone extrêmement long. Bien. Les dendrites, eux, reçoivent, donc ce sont des oreilles qui reçoivent les informations des autres neurones. Combien y a-t-il de neurones dans un cortex, dans un cerveau, plutôt que dans un cortex? Il y en a des 100 milliards. Moi, je n'arrive pas à visualiser. Chaque neurone est en connexion à des synapses avec, dans le cerveau, avec 10 000 autres neurones. Et dans le cervelet, avec 100 000 autres neurones. Donc il y a beaucoup plus de connexions dans le cervelet que dans 10 fois plus que dans le cerveau. Ça va tout mouiller. Et en fait, dans le cerveau humain, il y a plus de connexions possibles qu'il y a d'atomes dans l'univers. Donc moi, ce sont les chiffres que j'arrive pas à imaginer. Tellement c'est immense. Bien. La matière liquide, là je vais essayer de vous trouver, oh, voilà, peut-être ici. Je sais que les images ne sont pas super parce que c'est des photocopies de trucs colorés, mais on va quand même pouvoir. Ça, c'est, vous avez ici les ventricules qu'on appelle 1 et 2. Vous avez ici le troisième ventricule qui se prolonge par l'aqueduc. Tout à l'heure, j'ai dit le troisième, c'était les 1 et 2. Qui se prolonge par l'aqueduc cérébral ou aqueduc de Sylvius. On a le quatrième ventricule et puis ça se prolonge à l'intérieur de la moelle épinière. Et là-dedans, vous avez ce qu'on appelle les plexus choroïdes qui fabriquent du liquide céphalorachidien. Et donc, il est fabriqué sans arrêt. Et puis, vous avez, je ne sais pas si on le voit à cet endroit-là, pas vraiment, mais au niveau du quatrième ventricule, ah ben voilà, ouverture latérale et ouverture médiane. Au niveau du quatrième ventricule, vous avez des petites fentes qui permettent au liquide céphalorachidien de quitter l'intérieur du cerveau et de pouvoir sortir et aller baigner le cerveau à l'extérieur. Et par exemple ici, vous avez un sinus qui contient du liquide céphalo-rachidien et c'est là qu'il est réabsorbé pour retourner dans le sang. Ça va ? Donc le liquide céphalo-rachidien est en mouvement constant. Si je vous le montre ici, vous avez une autre vision. Ça, c'est une vision à travers le cerveau. Donc vous voyez que vous avez ici ce qu'on appelle dans chaque hémisphère les ventricules latéraux. Puis au centre, ici, il se jette dans le troisième. Vous avez l'aqueduc. Et puis vous avez le quatrième. Et vous voyez que vous avez une sortie vers l'extérieur. Et si je vous le montre en coupe, voilà, donc ici, on ne voit plus trop les ventricules, vous avez ici un ventricule avec le plexus choroïde qui fabrique le liquide céphalo-rachidien, vous avez le troisième ventricule ici, ça c'est le premier, deuxième, troisième, puis ça descend par le canal vers le quatrième, et puis vers la moelle épinière, et vous voyez qu'au niveau du quatrième, eh bien, ça ressort, et là, ça peut baigner tout le cerveau, et être réabsorbé ici, en haut. Voilà, ça c'est pour ce liquide céphalo-rachidien. On n'en parlera plus, mais c'est pour vous donner une idée. Donc il y a tout ce liquide qui baigne le cerveau, et qui joue un rôle de quoi ? Ben, il doit apporter des nutriments au cerveau, il doit enlever les déchets du cerveau, mais il joue aussi un rôle au niveau de l'immunité. Et comme c'est un coussinet liquide, là où, entre le crâne et le cerveau, il joue un rôle de protection aussi.
Et il est tout à fait fabriqué par les ventricules.
Il est fabriqué dans les ventricules par le plexus choroïde.
Et il est... pas du tout par le reste du corps.
Ah non, tout est...
Tout est...
Non. Si tu veux, les plexus choroïdes, c'est quoi ? C'est du sang.
Ah.
Tu vois ? C'est du sang, et ce sang, est à partir du sang, comme dans les organes, à partir du sang, tu fabriques le liquide extracellulaire,
oui.
et qui peut revenir de la lymphe après, etc. Mais c'est le même principe. Ah. Les plexus choroïdes, quelque part, sont comme un filtre qui laisse passer ce dont le cerveau a besoin dans le liquide céphalo-rachidien.
Ah.
Ça va ? Alors, si par exemple, j'ai mes ventricules cérébraux qui s'élargissent, c'est pourquoi, en général, quand on... Parfois, si on regarde un cerveau comme ceci, on regarde le cerveau et on voit qu'au lieu d'avoir un ventricule latéral ici, qui est aussi petit, il prend beaucoup plus de place. Pourquoi prendrait-il plus de place ? Mais en général, ils prennent plus de place s'il y a moins de masse cérébrale. Donc en général, quand une personne a une carence cérébrale, parce que c'est une maladie génétique, etc., manque d'oxygène à la naissance, à ce moment-là, les ventricules vont prendre beaucoup plus de place. L'hydrocéphalie, c'est autre chose là. C'est quand la pression augmente dans le liquide céphalo-rachidien. Et à ce moment-là, quand il y a trop de pression, il y a plus de liquide céphalo-rachidien qui est fabriqué qu'éliminé. Et donc la tête, ça va remplir tous les ventricules qui vont presser sur les cellules cérébrales qui sont autour. Par exemple, ici au niveau du thalamus, au niveau des ganglions de la base, etc. Et à ce moment-là, ça peut écraser, léser, détruire les cellules cérébrales. Et en général, chez ces enfants-là, je vais vous montrer ceci, ceux qui souffrent d'hydrocéphalie, pour éviter cette lésion, qu'est-ce qu'on fait ? Mais vous voyez ici, on ne voit pas super, hein, mais bon, je vais quand même essayer de vous montrer. Vous voyez ici, le quatrième ventricule, il est ici, juste là. Et vous avez le cervelet qui, quelque part, joue le chapeau du quatrième ventricule. Eh bien, juste... dommage, je ne vois pas si bien. Là, juste ici, sous le cervelet, on est en haut du cou. Et bien, en général, on va mettre un drain ici, drain qui va remettre le liquide céphalo-rachidien dans le système veineux avec un clapet pour contrôler la pression. Et donc, chaque fois qu'il y a trop de pression dans le liquide céphalo-rachidien, par le drain, on retourne ici derrière dans le système veineux. Et c'est comme ça qu'on permet chez les enfants hydrocéphales, par exemple, où il y a trop de liquide qui est fabriqué, ici et un peu là, trop de liquide fabriqué, de pouvoir retourner dans le système sanguin sans léser le cerveau.
Donc ça n'est plus que
l'hydrocéphalie. Mais si tu le prends très jeune et qu'il n'y a pas encore lésion cérébrale, c'est la solution.
C'est des fois on prend le médicament ou ça n'a rien à voir.
Tu veux dire en intra-utérin?
Non, quand les enfants viennent à la consultation.
On mesure le périmètre crânien, entre autres pour ça. Oui, tout à fait.
Oui, donc,
mais, aussi pour, juste pour, mais aussi pour voir si la tête ne grandit pas assez, ça peut aussi signifier quelque chose. Si la tête ne grandit pas assez, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de cellules. Bon, ben, on s'en rendra compte dans la vie de tous les jours, hein, de la manière dont l'enfant. Mais pas tout à fait, parce qu'en fait, un jour, c'était, je ne sais plus dans quel journal, vraiment vulgarisation, j'ai vu un gars, on était soufflé de voir, il avait vraiment des ventricules qui prenaient une place énorme dans son cerveau, et il fonctionnait tout à fait normalement, sauf un petit machin dans la vie quotidienne, mais complètement normalement. C'était, on aurait vu ce truc-là, on aurait dit que c'était un handicapé profond. Et ce type, il était marié, il avait des enfants, tout à fait normalement. Il y avait juste un petit machin de sa vie quotidienne qui l'embêtait. Et c'est pour ça qu'il avait été consulté. Donc pour dire, tu voulais dire quelque chose?
Mais non, je voulais juste demander, je ne vois pas bien le liquide, une fois qu'il retourne au système sanguin, il est dans tout le corps.
Ah, ben oui. Il retourne. Mais tu as l'artère carotide qui monte les informations, qui monte le sang. Et puis à l'intérieur, dans le cerveau, tu as ce polygone de Willis où tu as vraiment un réseau d'artères pour protéger le cerveau au maximum, ou la droite et la gauche. Puis tu as aussi l'artère vertébrale qui monte. Donc tu as deux artères qui montent de deux côtés. Et au centre, elles se rassemblent, au centre du cerveau. Et puis de là, tu as des artères de plus en plus petites qui deviennent des capillaires, etc. Et entre autres, ces capillaires vont au niveau ici des plexus choroïdes. Plexus, c'est un réseau. C'est un réseau de petits capillaires qui viennent là libérer les nutriments pour le cerveau. Ça va? Et puis, ça retourne là-dedans. C'est comme dans les tissus où les capillaires libèrent le liquide extracellulaire. Mais là, ça passe dans ce qui devient le liquide céphalorachidien, dans les ventricules. Et de là, ça baigne partout, et c'est repris ici, dans les villosités arachnoïdiennes, c'est repris dans le sang. Ça va? C'est tout. C'est comme la lymphe, quoi. La lymphe qui a le liquide extracellulaire, qui baigne tout le corps, et puis qu'à un moment donné rentre dans un vaisseau lymphatique, remonte par le tronc cérébral, le gros lymphatique, j'ai oublié son nom, et vient se rejeter principalement dans la veine sclavaire gauche, mais aussi dans la droite. Donc c'est le même principe, si tu veux. Et quand tu regardes la composante liquide céphalorachidien et la composante lymphe, elle est très proche.
Là, c'est que la lymphe au niveau des ganglions, elle est nettoyée quand on retourne dans le sang. Au niveau des ganglions lymphatiques, et ici, il y a un
système. Oui, mais attends, ici, le système, c'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Ouais. Et la barrière hémato-encéphalique, c'est la barrière qui fait qu'au niveau des plexus choroïdes, on ne laisse pas tout passer. Ne passe que certaines choses. Sauf quand elle est lésée, où il y a certaines molécules qui passent, comme par exemple une molécule qui passe super bien dans le cerveau, c'est l'alcool.
Donc en fait, cette barrière qui mène pas la peau des ganglions lymphatiques.
Oui, mais à l'arrivée, pas à la sortie. À l'arrivée. Ah,
d'accord.
Bien. La surface du cerveau. Quand on voit un vrai cerveau, hein, ben il ressemble un petit peu comme un pruneau séché, comme ça, tout gratatif. Et il est couvert de petites rides qu'on appelle des gyrus. Et donc, quand vous. Ici, ben, ça, c'est un faux cerveau, hein, c'est pas vrai. Quoi? Et en fait, vous voyez, vous avez vraiment cet aspect, bon, ici, avec des bosses et des fosses, des petits creux et des petites bosses. Les petites bosses s'appellent des gyrus. Et pourquoi le cerveau s'est développé comme ça, avec des bosses, des fosses et de plus en plus de bosses de fosses? Parce que il avait besoin d'une très grande surface. Et plus l'évolution a développé les choses, plus il fallait que la surface s'agrandisse. Mais si de nouveau, si la surface s'agrandit, on a de nouveau un piano, comme une tête comme un piano. Bien. Donc, la réponse a été, plutôt que de mettre les choses en surface, a été de faire des bosses et des creux. Ça va, c'est comme si je prenais ma toile, cirée, et plouf, je la replie. Bien. Quand on regarde, par exemple, chez un rat, et ça, je l'ai à quelle page, 86 ou 89, la tête d'un rat, elle est équivalente aux fesses d'un bébé. Lisse de lisse. Voilà. Si vous regardez le cerveau du rat par rapport au cerveau humain, si vous regardez le chimpanzé, il a moins, mais le dauphin, il en a beaucoup de gyrus. Vous voyez ? Donc ça, c'est un singe gyrus. Un chimpanzé a déjà beaucoup plus. L'homme, beaucoup plus. Le rat, rien du tout. Le rat. Dauphin beaucoup, l'homme, chimpanzé. Tout lisse. Un scientifique allemand a cherché à mesurer ce qu'il appelle l'indice de gyrification. Et c'est quoi l'indice de gyrification? Eh bien, c'est la surface, la mesure complète, divisée par la surface de la Terre. Donc si par exemple, de la tête, si je prends par exemple le cerveau entier, non, ici il est en demi, et que je mesure sa surface comme ceci, ça c'est ceci. Et puis je vais mesurer sa surface en rentrant, en ressortant, en rentrant, en ressortant, et ça c'est ça. Ça va? Donc je divise l'un par l'autre. Combien de fois ça rentre là-dedans? Alors, donc c'est la mesure de toutes les rides, tous les gyrus, divisée par la mesure de la surface du cerveau. Ça va? Ça c'est l'indice de gyrification. Chez l'humain adulte, l'indice de gyrification est de 2,6. Chez le rat, ben, on a vu, il n'y a aucune ride, elle est de 1. Au cours de l'évolution, cet index n'arrête pas d'augmenter. Un fœtus revit, repasse partout. Donc, très tôt, le fœtus, il a une tête de rat. À 6 mois, son indice de gyrification est de 1,06. À 6 mois. Donc, il est un tout petit peu mieux que le rat. À 6 mois. À la naissance, il est de 2,15. Donc, en 3 mois, vous imaginez, quand on dit que c'est tellement important que les bébés restent en intra-utérin.
Un prématuré de 7 mois et demi, par exemple.
Bah, il est beaucoup plus bas.
Et donc, ça diminue sa capacité cérébrale.
Mais ça veut dire qu'elle doit encore continuer à se développer. Le développement du cerveau passe d'un cerveau de rat, entre guillemets, à un cerveau pas encore tout à fait adulte, en 3 mois, quoi, les 3 derniers mois. Donc, d'où l'importance.
Mais le cerveau peut continuer extrêmement.
Bien sûr.
Ah oui.
Et ce n'est que vers 20 ans qu'on arrive à 2,60. 20 ans, on arrive au cerveau adulte. Donc, chez l'humain, et ça on le sait depuis toujours, l'augmentation du nombre de neurones, donc l'augmentation de cet index de gyrification, l'augmentation des capacités, se fait encore bien longtemps après la naissance. Parce que si on devait naître comme les bébés animaux mammifères naissent, avec un cerveau adulte à la naissance, ben on ne passerait pas par la filière génitale. C'est impossible. La tête du bébé serait beaucoup trop grosse. Et c'est la raison, le bébé continue encore sa grossesse à l'extérieur.
Ah, les mammifères naissent avec un cerveau mature.
Ben, quasi, hein, quasi. T'as déjà vu un petit chat, en 2 mois, il est OK, quoi. C'est pas en 20 ans qu'il est OK.
Oui, j'ai jamais fait
le
rapprochement.
Oui. Il y a un cardinal, est-ce que ça va être nul? Oh là là, quelle question tu me poses, là. Dans le psychologie de ce mois-ci, il y a l'oncle de David Servan-Schreiber, j'ai oublié son prénom. Il vient d'avoir 70 ans. Et il est super encourageant. Il dit c'est la belle vie. Quand moi j'étais petit, c'était un beau monsieur sage, mon père. Ben, moi, non. 70 ans, vous en faites pas, c'est rien du tout. Ah bon, très encourageant. Ah. Enfin, je suis encore loin de là, mais. Donc, avec la vieillesse, en fait, on y reviendra parce que ça, c'est un peu plus loin dans la journée. Avec les non-âgés, j'ai plein d'histoires. Ça va, on y revient après. Bien. Vous voulez faire la pause ou bien vous voulez qu'on continue un peu? Il est quelle heure? Il est moins 10.
11 heures
moins 10. On fait la pause maintenant ou
tout à l'heure? Pause.
Pause.